Donc, j'appelle maintenant Édouard Brézin, qui va également nous parler de ses souvenirs dans l'Anatole.
Bien, merci de m'avoir invité aujourd'hui à parler d'Anatole Abraham, que, comme tous ici, j'ai beaucoup admiré. Je n'ai pas travaillé sur la résonance magnétique. Quand je suis arrivé à Saclay, il y a maintenant plus de 50 ans, il y avait déjà une séparation entre le service de résonance magnétique et le service de physique théorique, qui était dirigé par un autre mousquetaire, Claude Bloch, dans lequel je me suis retrouvé. Mais Anatole Abraham était à l'époque directeur de la physique. C'était une figure extraordinairement impressionnante pour les jeunes physiciens que nous étions. Mais je dois dire que son humour extraordinaire permettait très vite de briser la glace. Et il insistait pour qu'on l'appelle Anatole, ce qui nous intimidait terriblement, mais enfin, on s'y est tous fait, et je n'arrive pas à l'appeler autrement qu'Anatole. Il venait de temps en temps au Café des théoriciens, même assez souvent, et il venait parler avec nous des derniers travaux de physique dans le monde. Mais il prenait un plaisir à affronter avec humour, mais fermeté, les jeunes communistes très ailés qui étaient parmi nous. Grâce à sa connaissance parfaite de la langue russe, qui lui avait permis de s'entretenir confidentiellement avec beaucoup de citoyens soviétiques, il n'avait pas eu besoin de la publication de l'archipel du Goulag pour comprendre la nature de ce régime que sa famille avait fui quand il était enfant. Ce n'était pas banal. Ceux qui n'ont pas vécu cette époque auront quelque mal à comprendre qu'en ces temps de guerre du Vietnam, de soutien des États-Unis à tous les Pinochets disponibles, il n'était pas simple de s'opposer à l'activisme de nos collègues du parti, sans être accusé d'alliance objective avec la réaction. Mais Anatole savait le faire admirablement. Notre admiration pour Anatole, avant de parler d'Académie, je reste en Saclay, fut néanmoins décuplée, lorsqu'il cessa d'être directeur de la physique. Alors que tout en France nous montrait que l'aspect aux responsabilités administratives n'était qu'une échelle à emprunter dans le sens de la montée, afin de devenir un chef, seule réussite concevable, Anatole choisit de montrer à tous quelle était pour lui la véritable hiérarchie des valeurs. Son choix fut de retourner à la paillasse, ou à ce qui sert de paillasse à un théoricien, même si proche des manips. Et la réussite fut éclatante, puisque cette période fut marquée par deux des plus importantes contributions d'Anatole Abraham à la science, que Maurice Goldman, qui fut associé, vient d'évoquer, la mise en évidence d'un ordre antiferromagnétique nucléaire à des températures de spin de l'ordre du nano-Kelvin en 1974, et en 1978, l'invention d'une méthode dynamique pour polariser les noyaux qui devait se révéler fort utile pour les expériences de physique des particules, pour avoir des cibles polarisées. Cette façon de démontrer ce que devait être la hiérarchie des valeurs pour un homme de science fut pour nous tous autour de lui bien plus frappante que toute leçon de morale. Donc j'en viens à mon sujet. En 1972, il fut élu à l'Académie des sciences. Et vous me permettez de citer ce qu'il en dit dans « De la physique avant toute chose ». Quoi de plus fondamentalement, authentiquement, viscéralement français que l'Académie des sciences de 1972, avec ses usages et ses rites, ses secrétaires perpétuels, ses plis cachetés, ses comités secrets, ses séances publiques, ses jetons de présence, ses séances solennelles sous la coupole où l'on pénétrait au son du tambour en habit vert, ses comptes rendus magnifiquement ignorants et ignorés de l'étranger. Tout ça a changé, évidemment. Quelle aubaine pour le déraciné venu du froid, ajoute-t-il, sans terroir et sans aïeux, de pénétrer dans cet univers fermé et feutré si délicieusement rétro. Je dois dire cette phrase émouvante. Je n'avais jamais imaginé qu'Anatole eût pu se sentir déraciné, mais c'était vrai, je n'y avais pas réfléchi. À cette époque, il fallait en passer par ce qu'Anatole appelait la règle du cadavre, qui est encore de règle à l'Académie française, par exemple. Et de plus, les visites étaient requises. Ceux qui les avaient refusées, comme Marie Curie, Irène Joliot-Curie, Jacques Monod et sans doute bien d'autres, n'en faisaient pas partie. Je dois dire qu'il arrive encore à certains membres de cette compagnie de se plaindre que cette tradition ait disparu, mais personne ne s'en plaint, ni chez les physiciens, ni chez les mathématiciens. Anatole s'y plia, et il raconte avec humour ses visites. Je me contente de reprendre ici celle qu'il rendit à Albert Caco, grand ingénieur, spécialiste des travaux publics, qui était nonagénaire et qui s'était aussi beaucoup intéressé à l'aviation. Donc, Anatole dit que la conversation porta vite sur le rôle de l'aviation au cours de la guerre. Mais Anatole se rendit vite compte qu'il y avait un malentendu, il ne parlait pas de la même. La définition par Anatole d'une bonne académie est célèbre. Il disait, on peut dire d'une académie qu'elle est bonne lorsqu'on ne peut pas en constituer une meilleure avec ceux qui n'y sont pas. Il écrivait en 87, toujours dans ce même livre, que l'académie surclasserait largement une shadow académie que l'on tenterait de constituer avec des non-académiciens. Elle était donc bonne en 87 selon sa définition. Il faut dire qu'il avait pesé pour faire adopter des réformes importantes. Dans toute année d'élection, il est devenu obligatoire d'élire au moins 50% de personnes âgées de moins de 55 ans. Il avait pesé sur cette mesure qui a beaucoup changé les choses. Il avait même fait imposer un comité de lecture chargé de filtrer les manuscrits soumis au compte-rendu, alors que jusque-là, la recommandation d'un membre, parfois abusivement indulgent, suffisait. En 1980, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, vint honorer de sa présence une séance solennelle sous la coupole. Anatole fut choisi par ses confrères pour faire le discours de réception. Il choisit pour sujet l'illustration de l'importance de la recherche fondamentale. Je n'y ai pas assisté, mais nous avons tous lu ses plaidoyers pour une recherche curiosity-driven, c'est-à-dire guidée par la seule volonté de comprendre. Vous connaissez, c'est dans son livre, sa comparaison entre les ministères qui veulent de l'innovation, sans avoir à financer de la recherche, avec des inspecteurs des finances en mission à la SNCF qui s'indignent en découvrant que dans chaque rame de train, il y a une voiture qui ne transporte pas de voyageurs et de surcroît consomme des quantités extravagantes d'énergie. Anatole n'était pas non plus un admirateur de notre système éducatif. Ça a déjà été évoqué par Serge. Après sa licence de physique, dont il se rendit bien compte qu'elle avait soigneusement omis de lui enseigner des disciplines aussi dépourvues d'intérêt que la mécanique quantique ou la physique nucléaire, il m'avait rapporté qu'il était allé demander un sujet de thèse à Francis Perrin. Il n'avait pas été transporté d'admiration pour la réponse qu'il obtint de celui-ci. « Oh, vous n'avez qu'à ouvrir la Physical Review, vous y trouverez bien un sujet intéressant. » La guerre interrompit tout cela. Et c'est évidemment son PhD à Oxford, son séjour à Harvard auprès de Purcell, Pound, qui lui ouvrit les yeux sur la physique de notre temps. Il est découvert, ça a été évoqué, à Oxford la RPE, à Harvard la RMN. Et il écrit dans son autobiographie « J'ai découvert la RMN en 1952 ». Ceux d'entre vous qui s'étonnent et se souviennent des travaux de Purcell, de Pound, de 46, 48, doivent comprendre ma phrase. J'ai découvert la RMN en 52, comme on dit, j'ai découvert le sexe à 18 ans. Il tenait le livre de Dirac sur la mécanique quantique comme le plus grand livre de physique de l'histoire. Je reviens donc à la visite de Giscard à l'Académie. Les présidents de la République s'étaient parfois exprimés avec férocité sur la recherche. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, avait méchamment ironisé De Gaulle. Pompidou aurait déclaré qu'il y avait deux façons de se ruiner, financer de la recherche ou entretenir une danseuse, mais la deuxième était tellement plus agréable. Bref, avec les médias, tout le monde s'interrogeait alors, puisque nous sommes si intelligents, pourquoi n'avons-nous pas plus de prix Nobel ? Face à Giscard en 1980, Anatole esquissa une réponse. On se demande souvent, en parlant des succès de la science anglo-saxonne, qu'ont-ils donc que nous n'avons pas ? Et Anatole poursuivit, peut-être convient-il d'inverser la question. Qu'avons-nous qu'ils n'ont pas ? Sont-ce les grandes écoles ? Je suis sûr que c'est allé droit au cœur du président Giscard d'Estaing. En 1984, l'Académie organisa un débat entre Abraham et le mathématicien René Thom. Ce dernier, qui avait fait des contributions éminentes à ce qu'il avait appelé la théorie des catastrophes, qu'il aurait été plus honnête mais moins médiatique d'appeler la théorie des singularités, avait une réflexion philosophique sur les sciences de la nature. Il accusait celle-ci d'être exclusivement pragmatique et soucieuse d'efficacité plutôt que de vérité ou de compréhension véritable. Il soutenait que l'expérience n'avait de sens qu'accompagnée d'un présupposé théorique. Anatole estimait que Thom méconnaissait le rôle de l'expérience et l'Académie décida d'organiser un débat public. Je pénétrai ainsi pour la première fois dans le palais de l'Institut et la belle salle des séances pour écouter cette confrontation. Je crois que ces deux grands hommes n'ont jamais réussi à dialoguer ce jour-là. Le physicien que je suis, certainement non objectif devant cette querelle, fut fort déçu des attaques de Thom. Je me souviens par exemple qu'il déclarait qu'une expérience était un ouvert de R3 croité. Ne vous laissez pas prendre, c'est une simple lapalissade. Ou qu'une courbe expérimentale ne contenant qu'un nombre fini de points, et que comme par tout un nombre fini de points, on peut faire passer un nombre infini de fonctions, il n'y avait pas de résultat expérimental sans conception théorique sous-jacente. Anatole eut beau jeu d'expliquer ce qu'était le métier de physicien, et j'eus le sentiment qu'à vaincre sans péril, il triomphait, non pas sans gloire, mais sans effort. Il était clair pour moi que l'analyse de Thom ne rendait nul compte d'innombrables découvertes expérimentales, comme celle de la radioactivité par Becquerel, de la supraconductivité par Kamerlingen sous des rayons X par Röntgen, qui n'était certainement pas précédée d'une quelconque vision théorique. En 91, je pénétrai à mon tour dans cette noble compagnie et je regrette de ne pas avoir de photos des bancs de l'époque où siégeaient côte à côte, en face des physiciens, Cartan, Schwarz, Choquet et Thom, côte à côte, qui faisaient des plaisanteries de collégiens, mais comme ils étaient sourds, ils chuchotaient très fort et ne se rendaient pas compte que tout le monde en profitait. Du côté des physiciens, un banc où siégeaient souvent Abraham, Brossel, Friedel, et je ne peux m'empêcher de penser, en me remémorant ces grands hommes disparus, Friedel, à la fin de l'été, que le monde s'est rétréci. Je constatais à l'Académie qu'Anatole avait gardé son esprit mordant, incisif, son humour incomparable. Néanmoins, lorsque nous écoutions de jeunes scientifiques, il était ou bien enthousiasmé, alors il l'exprimait haut et fort pour les encourager avec enthousiasme, ou bien il n'était pas intéressé et il ne voulait pas se montrer méchant. Anatole Abraham, nous l'admirions, nous le respections et nous l'aimions.